dit qu'est.
Voilà, bonjour à tous. Voilà, comment se sont passés ces 15 jours de dialogue et d'analyse avec votre volonté pour ceux qui étaient là il y a 15 jours? J'espère que vous avez pu avoir de bons partages avec elle. Vous savez, nous faisons partie d'une génération qui, depuis quelques décennies, exerce de moins en moins sa volonté. C'est vrai, maintenant, il y a les écrans, il y a la télé, il y a la pub, et on est, à notre insu souvent, on est manipulé, et on a une volonté moins coriace, dirons-nous. Mais Dieu veut restaurer notre volonté pour faire face aux voleurs de destinée. Vous savez, celui qui vient dérober et détruire. Alors, quel que soit le dysfonctionnement dont notre volonté est atteinte, nous ne serons jamais aussi heureux que lorsque Dieu l'aura restauré. Il veut nous redonner une volonté ferme, engagée pour lui, capable de fléchir devant lui en résistant au diable, de tenir ferme. Vous savez, parfois, quand on parle du diable, on le guette du coin de l'œil, et puis si on le voit là-bas, hop, nous, on file par la porte qui est là, parce qu'on n'a pas envie de l'affronter. Mais je pense que Dieu nous demande de l'affronter. Dieu nous demande de lui faire face. Et il veut faire de nous des personnes dont le front est dur comme le diamant. Alors, je ne sais pas si, mesdames, il y en a beaucoup parmi vous qui ont des diamants au doigt, hein, mais paraît-il que c'est la pierre la plus dure. Et on voit ça dans Ézéchiel 3,9, que Dieu veut nous donner un front dur comme le diamant. Non pas pour être têtu ou cabochard, mais simplement pour pouvoir résister au diable. Pour faire de nous des gens qui n'abandonnent pas et qui ne démissionnent pas à chaque contrariété. Ah. Si on regarde Ruth, par exemple. Ruth, elle en a vu de toutes les couleurs. Déjà, elle s'est mariée avec un immigré. Elle a perdu son beau-père. Elle a perdu son mari. Finalement, dans cette famille, tous les hommes ont été décimés et il n'est resté que la maman, la belle-maman et les belles-filles. Et quand Naomi a pris le chemin de retour, elle a supplié ses belles-filles, elle leur a dit « Écoutez, rentrez chez vous parce que voilà, vous avez la vie devant vous. » Et Ruth, elle aurait eu toutes les raisons de se plaindre. Elle aurait pu retourner chez papa-maman pour essayer de recoller les morceaux de sa vie. Mais elle a déclaré à Naomi « Où tu iras ? J'irai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Vous pouvez lire ça dans Ruth, chapitre 1, verset 16. Elle avait une volonté qui était déterminée. Qu'est-ce qui l'a poussée à cela ? Quel intérêt avait-elle à partir avec Naomi ? Elle ne savait pas, elle ne savait même pas pourquoi, mais elle était convaincue qu'elle devait le faire. Et vous savez que Dieu l'a utilisée, hein, elle s'est devenue l'aïeule de David. Et nous avons besoin d'une volonté bien trempée, passée au creuset. On n'aime pas trop le creuset, ça chauffe là-dessous. Hein. Mais pour être en harmonie avec celle de Dieu, et il attend de nous que nous alignions notre volonté à la sienne, non pas parce que c'est une obligation, non pas parce qu'il nous menace avec une arme, non pas, mais simplement parce que nous l'aimons. Est-ce que vous aimez Dieu ce matin ? Ouais. Alors, Dieu attend de nous, parce que nous l'aimons, que nous puissions aligner notre volonté à la sienne. Il veut faire de nous des vases nouveaux, des vases fonctionnels, des vases solides, des vases stables. Dans Matthieu 11, 12, on lit ceci. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous allez me dire que vous n'êtes pas violent. Moi non plus, rassurez-vous. Hein. Mais ici, la violence parle d'engagement, de ténacité, tout ce qui est contraire à la passivité, à la mollesse. Un autre passage, dans Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça va bientôt être l'heure du repas. On aime bien, surtout le dimanche, on fait toujours un repas meilleur. Mais là, il s'agit d'une autre nourriture. Ésaïe 1, 19, si je ne me suis pas trompée, parce que ça, c'est... Donc, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu veut donc deux choses. Il veut la docilité et il veut la collaboration. Autrement dit, il attend de nous que nous inclinions notre volonté et que nous adhérions à la sienne. Et nous ne devons pas être dans la résignation. On ne subit pas la volonté de Dieu. On la désire, on y entre, on y participe. Alors la docilité montre une volonté brisée. Vous savez, comme le vase qui ne convenait pas chez le potier. Et la bonne volonté montre une volonté restaurée. Le deuxième vase qui était tip-top, qui correspondait exactement à l'usage auquel il était destiné. Alors il ne s'agit pas pour nous de dire « oui, 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 Seigneur » et d'avoir une tête d'enterrement, mais il s'agit de poser des actes. J'aime ce passage de David, dans la vie de David, il rêvait, il avait un rêve, David. Il voulait bâtir une maison à l'Éternel. Il s'est dit, moi j'ai une belle maison, avec des lambris, avec tout est impeccable. Et l'Éternel, il habite dans une tente, ça ne va pas ça. Donc moi David, je vais lui bâtir une maison. Et puis voilà, le Seigneur a dit, mais je ne suis pas d'accord. Et il lui a envoyé dire ça. Il lui a dit, c'est pas toi, mais c'est ton fils qui bâtira la maison. J'imagine que pour David, ça a dû être une sacrée déception. Et quand il a eu compris que ce serait Salomon qui aurait l'honneur de bâtir le temple de l'Éternel, il a pris une décision. Préparer tout ce qu'il pourrait pour faciliter la tâche de son fils. Alors, donc, il y a eu trois étapes. Il réfléchit à tout ce que Salomon aurait besoin. Il se leva. Et il frit. Il ne s'est pas retourné, il n'a pas réfléchi sur son lit royal, là. Et puis il s'est retourné, il dit, bon, ben, Salomon est jeune, de toute façon j'ai le temps, je ferai ça dans 3 ans. Non, non. David se leva et il fit. Vous pouvez lire ça dans 1 Chronique, chapitre 22, verset 8. Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Bon, parfois, on est des David, ça nous arrive. Mais ça nous arrive aussi d'avoir besoin d'anges policiers ou d'anges supernani. Hein ? Tu as lu ta Bible, tu as prié. Tu as pardonné cette rancune-là, tu l'as oubliée? Tu as payé tes dettes? Tu as donné ta dîme? Tu t'es lavé les dents? Tu as mis tes chaussettes dans la manette de linge sale? Franchement, il faut reconnaître que parfois on réagit comme ça avec Dieu. Et on se fait tirer l'oreille. Est-ce qu'on a besoin que pour chaque rituel de notre vie avec lui, il envoie un ange avec une trompette pour nous jouer dans l'oreille et pour nous rappeler nos devoirs? Non, Dieu attend de nous que nous soyons matures et que nous nous prenions en main. Alors nous avons souvent de bonnes intentions, mais elles avortent avant d'avoir pris corps. Et j'ai réalisé, moi personnellement, que quand j'avais pris une décision, il fallait que je la verbalise. Il fallait que je dise à quelqu'un la décision que j'avais prise. Parce qu'autrement, si je la gardais bien cachée au fond de mon cœur, ben je pouvais très bien réfléchir, mesurer, peser avec mon raisonnement humain et puis dire « Oh ben non, cette décision, elle n'était pas bonne. » Mais une fois que tu l'as verbalisée, quelqu'un d'autre est au courant. Et c'est comme ça que je me suis trouvée embarquée dans des aventures. Bref, voilà. Mais... Bon, au premier rang, on se tait là. Hein ? Alors, nous avons parlé de ce fils, vous savez, le fils de Monsieur Schlumberger, le fils du vigneron, qui a refusé d'aller dans la vigne pour aller travailler, puis après il a réfléchi et il est allé. Par contre, son frère, c'était un jeune homme bien sous tout rapport, qui faisait la fierté de papa. Il disait toujours « Oui, papa ! Oui, papa !» Mais après, il n'y avait pas de suite à ses actions. Lequel reflète le plus ta démarche ? Lequel reflète le plus ma démarche ? Comment réagissons-nous ? Alors si on revient à ce que nous avons vu il y a 2 semaines, est-ce que vous vous souvenez du moment où la volonté des habitants du vieux manoir a commencé à s'affaiblir? Est-ce que vous vous souvenez? À quel moment? Vous n'avez pas pris votre leçon, hein? C'était au moment où ils ont commencé à se poser la question, Dieu a-t-il réellement dit? Ils ont commencé à douter. Ils ont commencé à avoir envie d'aller voir dans le pré voisin pour voir si l'herbe était meilleure que chez eux. Je connais une petite chèvre qui a fait ça. Bon, ça ne lui a pas réussi, hein? Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à dégénérer pour eux. Leur volonté, elle n'a plus été dure comme du diamant. Leur front est devenu perméable à toutes ces choses qu'ils ont découvertes en sortant de la présence de Dieu. Et si ça nous arrive, eh bien, c'est parce que nous perdons cette conviction que le meilleur endroit pour nous, c'est la présence de Dieu. Alors je voudrais que nous puissions revenir dans notre bus de la dernière fois et que nous puissions aller visiter un dernier établissement situé tout à fait à la sortie de la Cité de la Volonté. Celui qui le dirige a choisi cet endroit stratégique pour que nul visiteur ne passe sans le voir. Et c'est là que nous sommes attendus ce matin. Vous savez, parfois nous sommes prêts à faire des choses complètement très difficiles, à relever des défis insurmontables, parce qu'on pense que c'est dans le faire que Dieu veut que nous soyons. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons dans le faire. Dieu ne veut pas que nous fassions des choses. Il veut que nous soyons dans l'être. Il veut que nous soyons dans sa présence. Et ce centre que je vous invite à visiter ce matin, c'est le centre de remise en forme du docteur Éternel. Alors, nous sommes conscients des plaies et des bosses qui affectent notre volonté. Nous avons posé un diagnostic et nous allons nous laisser soigner. Nous n'allons pas subir les traitements. Nous devons être acteurs de notre remise en forme. En tant que enseignante, je me suis rendu compte, et nous avons découvert, le corps enseignant avance en plus là-dedans, que les enfants qui subissaient les cours n'avançaient pas. Pour qu'un enfant intègre la notion qu'on lui apporte, il faut qu'il devienne acteur de ses apprentissages. Et nous devons être acteurs de notre remise en forme. Alors vous faites du souci pour votre compte en banque, ne vous inquiétez pas, tout est pris en charge par la MSE. Vous êtes affiliés à la MSE? Non? Mais si, vous êtes affiliés, j'ai regardé avant de venir. C'est la mutuelle du Saint-Esprit. Donc, le programme est varié, chacun doit et peut et doit bénéficier de tous les soins. Et nous n'aurons rien à payer. Donc nous allons entrer, d'accord? Ah, il y a une première porte là. Et sur cette première porte, il y a marqué « balnéothérapie ». Alors, attendez. Hein. Alors, la balnéothérapie, c'est l'immersion, la rééducation. Sur le plan de notre volonté, nous n'aimons pas trop. Je pense que le petit bonhomme là qui est en immersion, il n'a pas l'air d'apprécier. Et l'autre là-bas, il s'accroche où il peut. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu veut que nous lâchions prise dans sa présence. Et ça, souvent nous ne sommes pas prêts à le faire. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, les dessins sont de Carlo, il n'est pas là ce matin, mais voilà. Donc, nous avons tous besoin de ce soin relaxant, où on peut tout laisser aller. Et si nous acceptons de tout laisser aller, Dieu veut nous laver de tout ce qui a agressé notre volonté. Il veut la rééduquer, il veut lui réapprendre à fonctionner. il veut la désaltérer. Hein. Vous savez, quand on fait une cure, paraît-il, enfin, moi j'ai jamais fait, hein, mais qu'on va boire de l'eau de la source dans un petit gobelet. Et nous devons lui manifester notre désir d'optimiser ce soin bienfaisant. Nous devons coopérer. Ne nous accrochons pas. Ne nous crispons pas. Ne nous soyons pas en apnée. Mais laissons-nous vraiment pénétrer par la présence de Dieu. Alors quand je pense à ce soin, quand je pensais à ça, ce qui m'est venu, c'était deux chants. Vous savez, souvent on chante pendant la louange. Mais est-ce qu'on mesure ce qu'on chante ? Parfois, il y a des chants qu'on adresse à Dieu, des paroles qu'on chante à Dieu et qui nous engagent à des choses, mais notre esprit ne suit pas parce qu'on chante. Voilà, c'est une habitude. Et ce serait tellement bien si on prenait le temps d'analyser, de se dire, si je dis ça à Dieu, si je chante ça à Dieu, est-ce que ma vie est prête à le suivre ? Et le chant auquel j'ai pensé, il y en a deux, hein, c'est « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Vous remarquez que c'est de l'impératif. C'est nous qui demandons à Dieu, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Est-ce que quand on chante ça, on a vraiment envie d'être plongé dans la rivière d'amour de Dieu ? Oui, pour barboter tranquillement, mais est-ce qu'on a vraiment envie de tout lâcher ? Est-ce qu'on a vraiment envie de se laisser immerger ? Et la suite, c'est magnifique. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie. Ma volonté est guérie. Tout mon être est guéri quand ton onction m'envahit. Alors ce chant, ce n'est pas quelque chose qui est sorti d'un poète biblique, chrétien. Quoi. C'est simplement la mise en musique de paroles de l'Écriture. Nous pouvons lire dans Apocalypse 22, chapitre 22, verset 1, pardon, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et c'est dans ce fleuve que nous devons aspirer à être immergés. Un autre verset, le psaume 36, enfin il y a deux versets, 9 et 10. Il se rassasit de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Ça, c'est bon pour restaurer notre volonté. Et le deuxième chant auquel j'ai pensé, c'est un vieux chant, peut-être beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, mais il dit ceci, « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu, c'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, je vais y boire. » J'attends pas qu'on me menace avec un couteau derrière le dos pour m'avancer, non. Je vais y boire. Cet amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Dieu nous invite, il ne nous met pas la pression. Il respecte nos choix. Mais si nous acceptons, alors il agira. Et l'amour de Dieu, si nous le laissons nous immerger, si nous buvons à ce torrent, eh bien l'amour de Dieu va s'infiltrer jusque dans les fibres les plus serrées de notre être et restaurer tout ce qui a besoin de l'être. Laisse ta volonté baigner dans cet amour. N'aie pas peur de perdre pied. L'eau du fleuve de Dieu te porte. Dieu ne veut pas que tu trempes simplement tes orteils. Ça, c'est mon style à moi. C'est quelque chose qui nous différencie. Alain et moi, c'est que lui, c'est un vrai poisson. Il serait toujours dans l'eau, même dans l'eau froide à 15 degrés. Moi, je mets le bout du pied et je dis « Ah non, elle est froide, j'y vais pas. » Et spirituellement, souvent, on fait ça aussi. On met l'orteil et puis on se dit « Ah non, 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 c'est pas mon élément, non, non, moi, j'aime le plancher des vaches. » Mais Dieu ne veut pas, simplement. Merci. Dieu ne veut pas que tu trempes seulement tes orteils, ou même tes jambes jusqu'aux genoux, ou ton corps jusque sous les bras, aux aisselles, jusqu'aux épaules. Mais il veut que tu abandonnes tout pour te laisser porter par son torrent. Vous savez, Ézéchiel, quand il a eu cette vision, il a vu le torrent qui coulait. Et sous l'influence du Saint-Esprit, il a mis le pied. Bon, il en avait jusqu'à la cheville. Et puis le Saint-Esprit lui a dit « Avance !» Et il en avait jusqu'aux genoux, puis il en a eu jusqu'à la taille, puis il en a eu jusqu'aux épaules. Et puis c'était un fleuve tellement profond qu'on ne pouvait plus marcher, on ne touchait plus le fond. Et c'est là que Dieu se révèle. Acceptons que les pieds de notre volonté ne touchent plus le sol de notre sécurité pour s'y cramponner. Dieu veut nous amener dans le fleuve de sa volonté. Il veut que nous lâchions prise. Ce n'est pas facile, on aime bien contrôler. On aime bien garder quand même un minimum, c'est notre vie après tout, non? Non, Dieu veut simplement que nous lâchions prise. Ah, il y a une autre porte là. Il y a marqué « douche hydromassante ». Voilà, c'est sûrement très bien, mais bon, voilà. Et moi, dans ce soin, je vois que Dieu veut que nous acceptions qu'il arrache, qu'il fasse le vide pour replanter des arbres qui portent du bon fruit dans le jardin de notre volonté. Alors bon, si j'en crois le dessinateur, ce soin doit être assez violent dans son genre. Et notre volonté dysfonctionnelle, elle sera un peu surprise, elle ne va pas forcément apprécier au début la fermeté des jets et la pression de l'eau, mais elle en goûtera les bienfaits par la suite. Alors, je t'invite vraiment à accepter de te laisser stimuler par ce que Dieu dit au travers de sa parole et des messages partagés à l'Église. Est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit? Sûrement pas ici à Josué, mais parfois, dans certaines églises, il y a des gens qui se sentent visés par l'orateur. Ou alors, ils reprochent à l'orateur... Oui, il ne se met pas à ma place, avec tout ce que j'ai subi, moi j'ai eu des difficultés, lui pour lui tout va bien. Un jour une personne m'a dit, oh là là, qu'est-ce que c'est bien d'être la femme du pasteur, vous devez vivre constamment dans la paix, dans la joie, vous n'avez jamais de problème, c'est formidable, c'est magnifique. Mon œil, oui. C'est-à-dire que on est souvent dans l'œil du cyclone. Donc voilà, parfois on se sent visé ou on reproche à l'orateur de ne pas se mettre à notre place. Et bref, on boude. Et en boudant, on ferme notre cœur à la parole de Dieu. Mais Dieu veut te remettre sur le bon chemin, quitte à te contrarier. Dieu n'est pas toujours d'accord avec nous. Et le véritable amour ne consiste pas à toujours céder. Le véritable amour consiste à guider celui qu'on aime dans l'endroit où il sera bien. Et voilà, Dieu parfois nous résiste simplement parce qu'il veut nous mener sur le bon chemin. Son désir, c'est de te montrer quelle est sa volonté pour que tu puisses t'y conformer. Donc, vous connaissez tous ce verset de Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Est-ce que vous croyez que c'était seulement pour les Romains que la volonté de Dieu était bonne, agréable et parfaite? Non, moi je crois qu'elle l'est aussi pour nous. Elle l'est pour chaque être humain. Et souvent, ce qui a atrophié notre volonté vient de notre entourage, du siècle présent. Et Dieu veut que nous y remédions. Et comme le dit un dicton bien français, aux grands mots, les grands remèdes. Alors permets au Seigneur de te stimuler au travers de sa parole et des messages que tu entends. Accepte, cède, rends-toi, lâche prise. Tout est là, le secret est là. Et je sais qu'un jour, je ne sais plus quand c'était, on a chanté un chant, je pense que c'était un tabernacle que je n'avais jamais entendu, et dans le refrain il y a « je me rends, je me rends ». Je me demande si ce n'est pas Elisabeth qui avait fait chanter ça. Voilà, donc je ne connaissais pas ce chant, mais j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce qu'il est bien ». Parce qu'on a besoin de se rendre. Et ce matin, simplement pour ta volonté, Dieu ne te demande pas des choses difficiles. Et parfois, quand c'est trop facile, on ne veut pas le faire. Tiens, il y a une autre porte, là, une porte violette. Il y a marqué dessus, algothérapie par enveloppement. Berk. Vous savez, le contact des algues, c'est pas particulièrement agréable. Hein. Quand on en croise en se baignant, eh ben, c'est gluant, c'est froid, c'est visqueux et on a du mal à s'en débarrasser. Regardez plutôt. Et moi, je crois que Dieu veut employer parfois des algues pour panser nos plaies. Et nous devons le laisser faire. Nous devons lui laisser choisir ce qu'il utilisera pour guérir nos plaies. Figurez-vous que les algues, elles sont visqueuses. Ah, moi, rien que de les voir, ça me... Et quand je pense qu'il y a des gens qui en mangent, pardon pour ceux qui font de la diététique, mais voilà. Je préfère une bonne salade verte du jardin. Pourtant, les algues sont à l'honneur sur le plan thérapeutique. On nous propose des bains d'algues et même des enveloppements. Ben, moi, rien que d'y penser, ça me... Et pourquoi est-ce qu'on le staff médical propose ces choses-là? Parce qu'elles sont riches en oligo-éléments, en acides aminés, en vitamines, et elles sont reconnues pour leur qualité antiseptique, anti-inflammatoire et désintoxicante. C'est peut-être pas agréable, mais c'est efficace. Et Dieu a parfois besoin de nous attirer dans des zones d'inconfort. Mais c'est toujours pour nous bénir. Je me rends compte que les grands pas que j'ai faits avec Dieu, c'est toujours quand j'étais loin de mes sécurités. Toute seule, perdue comme ça dans un rassemblement, c'est là que Dieu m'a coincée, dans un coin là, et puis qu'il a décapé. Il m'a fait un peu d'algothérapie. J'ai pas aimé sur le moment, mais combien je le bénis. C'était vraiment ce qu'il devait faire avec moi. Je dirais que, voilà, dans le psaume 147,3, l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé, il panse leurs blessures. Alors, n'allez pas choisir vos pansements, vous préférez Urgo, vous préférez machin, vous préférez l'aloe vera, vous préférez je ne sais trop quoi. Non, laissez Dieu. Lui, il sait. Hein? Vous savez, lui, il est directeur du laboratoire Dieu Garant. Et il sait exactement ce qu'il faut pour votre volonté. Quand on lit l'histoire de Naaman, franchement, Naaman, c'était quelqu'un de haut placé. Et voilà qu'une petite fille, déjà c'est une petite fille, esclave qui plus est, va donner une piste pour sa guérison. Naaman était atteint de lèpre. Quand il est parti, j'imagine qu'il s'est fait un film dans sa tête. Il s'est dit, le prophète va sortir vers moi, il va poser la main, il va prononcer des mots et tout et tout. D'abord, il s'est trompé d'adresse. Il est allé chez le roi et ça a semé un peu de panique parce que le roi s'est dit, ah mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je ne peux pas guérir Naaman. Et Naaman s'est gratté la tête en disant, mais c'est quoi ces bobards? Finalement, on l'a envoyé chez le prophète. Arrivé devant la porte du prophète, Naaman arrange bien sa tunique et tout. Il attend que le prophète sorte. Voilà. Mais Élisée était en train de préparer son repas ou je ne sais trop quoi. Et il a envoyé son serviteur. Il a envoyé son serviteur vers Naaman et Naaman a dit, mais c'est quoi ça? Ils n'ont pas un brin de déontologie dans ce pays. Ils n'ont aucun sens de l'honneur, hein, c'est pas possible. Et en plus, le serviteur dit, voilà, le prophète a dit que tu allais te tremper 7 fois dans le Jourdain. Et il fait demi-tour et il s'en va. Attends, ça ne correspondait pas du tout à ce que Naaman voulait. Il attendait autre chose. Et parfois, nous attendons que Dieu nous demande des choses difficiles. Hein? Pour guérir ta volonté, Dieu te demande d'aller à 2000 km d'ici, d'investir dans un voyage en avion, de payer ton hôtel et tout. Je suis sûre que tu le ferais. Mais parce que Dieu te demande des choses simples, tu te dis, de toute façon, c'est de la foutaise ça. J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Ben, réessaye. Et donc, Naaman a dit, mais alors, comme s'il n'y avait pas d'eau chez nous. Hein, s'il n'y avait pas de fleuve. Heureusement qu'il y avait un serviteur qui était juste quelques étages en dessous, qui a eu la simplicité de dire ceci. Maître, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu l'aurais fait? Ben, bien sûr que je l'aurais fait. Alors fais ça. Finalement, Naaman a laissé sa volonté de côté et il a obéi au prophète. Il a accepté ce que Dieu lui demandait. Peut-être qu'il y avait des algues désagréables dans le Jourdain. Son ego a été un peu viscosé. Ce mot n'existe pas, mais j'aime bien inventer des mots. Et peut-être que le contact désagréable a heurté la volonté de cet homme de guerre. Mais il y a eu la guérison. Alors, désires-tu vraiment que Dieu restaure ta volonté et tout ton être? Alors, accepte de te plier à ce qu'il te propose. Ne cherche pas des choses compliquées. Accepte simplement. Et tu en ressortiras transformé. Vous savez, des fois, je me dis que si Dieu était compliqué, qu'il nous envoyait loin, tout ça, ce ne serait pas juste. Parce que ceux qui ne peuvent pas financièrement faire ça, est-ce que ça serait juste? Dieu serait élitiste. Il ne guérirait que ceux qui peuvent se payer des voyages, des hôtels et tout ça. Non, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu simple. Il est notre créateur. Et il vient te trouver là où tu es. Il te propose là où tu es. Tu n'as aucun déplacement à faire. Simplement à accepter. On passe à la porte suivante. Celle-ci, elle est marron. Et il s'agit de la salle des bains de boue. Les bains de boue marine. Moi, ça me parle de macérer dans la présence de Dieu. Vous attendez tous l'image, hein ? Je le vois. Mais vous allez attendre encore un petit peu. Vous savez, la boue, elle ne sent pas forcément toujours bon. Toutes les boues n'ont pas des vertus curatives. Mais la boue de la présence de Dieu, c'est le top du top. Et pour une pleine restauration de notre volonté, nous devons macérer dans sa présence. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Oui? Vous savez, pour connaître quelqu'un, il ne suffit pas de le rencontrer entre deux portes, même si c'est quotidiennement. Et parfois, nous croisons Dieu entre notre tube de dentifrice et puis la brosse à reluire de nos chaussures. Vite fait le matin, comme ça, on lui bafouille une petite prière juste pour se tranquilliser l'esprit, et puis on plonge dans notre journée. Est-ce que c'est ça, connaître Dieu? Moi, je pense pas que ça soit ça. J'ai pratiqué cette relation-là. Elle a laissé du vide dans mon cœur. J'ai compris que c'était pas la bonne relation. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Alors, seriez-vous prêts, messieurs, et même vous, mesdames, à épouser une personne qui prend l'ascenseur avec vous tous les matins? Vous la connaissez. Tous les matins, elle prend l'ascenseur avec vous. Et vous êtes, est-ce que vous êtes prêts à partager tout avec elle, sans essayer de la connaître mieux? Vous le feriez? Ben non, ça semble complètement... Et pourtant, parfois, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Nous disons connaître Dieu. Nous nous disons chrétiens. Mais quelle est la qualité de notre relation? Nous avons besoin, tu as besoin de passer du temps avec Dieu, seul à seul. De lui parler, mais aussi de l'écouter. Ça fait partie du processus de restauration. Pour aligner ta volonté avec celle de Dieu. Allez, je vous la donne. Alors, le bain de boue, ça peut paraître dégoûtant. Vous savez, quand j'étais petite, ma grand-mère atteinte de rhumatisme, elle avait travaillé dans les rizières en Italie à l'âge de 12 ans et toute sa vie. Donc, vraiment, elle était atteinte de rhumatisme déformant. Et deux fois par an, elle allait faire une cure de bain de boue à Dax, dans les Landes. Et c'était marrant, parce que moi, dans ma tête, j'imaginais ma grand-mère un peu comme ça, là, voilà. Et bon, voilà, ça me faisait rire. Donc, le bain de boue peut paraître dégoûtant quand on jette un coup d'œil sur la baignoire, mais s'y plonger apaise les douleurs et procure du bien-être. Alors, je ne sais pas si vous voyez le monsieur qui est dedans, là. On voit sa tête, regardez ses yeux. Il a l'air d'être bien. Alors, ce bain de boue, moi, ça me fait penser à macérer dans la présence de Dieu et parfois envisager une heure en tête-à-tête avec le Seigneur, sans téléphone, sans Wi-Fi, sans ordinateur, juste dans un partage d'intimité, ben parfois, ça nous effraie. On est là et on prie. Puis on regarde la montre, il y a juste 30 secondes qui se sont écoulées. Oh, on se dit, mais comment je vais tenir le quart d'heure que je me suis imposé? Pourtant, c'est tellement ressourçant. Et quand on rentre sans regarder la montre, sans se limiter, eh bien, le temps passe vite et on en ressort très différent. Apprenons à macérer dans la présence de Dieu. Et vous savez, c'est dans ces moments-là où tu es bien détendu, où tu es dans sa présence, que Dieu enfile ses gants de praticien et qu'il recoue, qu'il remet en place. Il réduit les fractures de ta volonté dans sa présence, juste quand tu macères dans sa présence. Psaume 105, verset 4. « Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force, aspirez à vivre constamment en sa présence. » Ne le rencontre pas juste 30 secondes. Hein, avec un Seigneur qui vit par la journée, Seigneur, voilà. Non. Tu peux essayer, mais je pense que ça ne t'apportera pas tout le bien-être et toute la guérison que t'apporteront des temps de qualité avec Dieu. Une autre porte, elle est bleue celle-là. Il y a marqué dessus « massage ». Ah, les massages. Moi, ça me fait penser au fait de laisser Dieu modeler notre vie comme il l'a décidé. Vous savez, j'ai fait de la kiné pour la première fois après la naissance de notre fils. J'avais mal au dos, mais terrible. Mais alors, c'était vraiment... Je n'avais jamais eu mal au dos comme ça. Et ma première expérience avec un kiné, ça n'a pas été une partie de plaisir. On m'avait dit, tu verras, c'est bien, tu ressors de là, tu es bien. Alors, j'étais à plat ventre sur la fameuse table, vous savez, et pendant qu'il essayait de démêler les nœuds des muscles de mon dos, je pleurais de douleur. Je me suis mouchée dans son drap en papier, là. Alors, je pense que... Voilà, Carlo a bien capté. Et quand je suis sortie de là... Ben, j'étais plus mal que quand j'y suis rentrée. Et je me suis dit, je ne retourne pas au deuxième rendez-vous. Puis finalement, je suis tombée sur mon conseiller qui m'a dit, tu vas y aller. Et j'y suis allée. Et dès la deuxième fois, eh bien, ça a été mieux. Et la douleur a lâché prise petit à petit. Et donc, ce souhait me rappelle l'histoire que nous lisons dans Jérémie, chapitre 16, les versets 3 et 4. « Je suis donc descendu chez le potier. Il était en train de travailler sur son tour. Mais le pot qu'il fabriquait à la main avait un défaut, ce qui arrive parfois. » Si tu sens que y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, ne culpabilise pas. La Bible nous dit que ça arrive. Donc c'est normal. « Alors le potier a fait un autre pot comme cela lui plaisait. » Et quand j'étais sur cette table du kiné la première fois, J'ai fait un sort pas très heureux à tous ceux qui m'avaient dit que la kiné c'était bien. Parce que j'ai souffert. Mais après, bien, mon mal au dos a disparu petit à petit. Et vraiment, combien je bénis Dieu pour ce qu'il veut faire avec nos vies. Quel pot es-tu? Es-tu conscient parfois de ne pas être le vase d'honneur que Dieu voit en toi? Il y a une solution. Mais il faut que tu acceptes les massages, parfois douloureux, du divin potier. Dieu a eu pour chacun de nous une vision plus large que ce que nous projetons nous-mêmes. Alors comment tu te vois ce matin? Quelles limites ta volonté t'impose-t-elle? Parce qu'elle est coquine, la volonté. La peur de l'inconnu, la crainte de ne pas être à la hauteur, le désir d'avoir le dernier mot, c'est ma vie, voilà, I want to do it my way. Elle est où, Lydie? Elle est là-bas. Tu te rappelles, Lydie? Et donc, voilà, tout ça, le fait de vouloir contrôler notre vie, sont autant d'arguments que notre volonté brandit pour installer une zone de sécurité qui correspond à notre vision limitée. Vous savez, je n'ai pas toujours été celle que je suis aujourd'hui devant vous. Et quand on me proposait un défi qui me défiait, c'est le propre des défis, et pour lequel je n'avais vraiment pas envie de mettre mes pieds dans mes orteils dans l'eau, là, hein, j'avais vraiment pas envie de me lancer. Et je disais ceci, c'est Dieu qui m'a créé, il me connaît, il ne me demandera jamais des choses qui dépassent mes compétences et mes capacités. C'est une belle façon de verrouiller ma volonté. Parce que moi, je m'étais fait un petit cadre, j'aimais bien ceci, j'aimais bien cela. Voilà, là je me sentais à l'aise. Et puis pour le reste, ben voilà, non. Et souvent c'est comme ça qu'on fait, qu'on réagit et qu'on gère nos émotions. Et Dieu veut casser toutes ces barrières, démolir ces tours de protection. Mais il a besoin de ton oui, il ne fait rien sans que tu dises oui. Le psaume 40, verset 9, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Je voudrais que nous le disions ensemble si vraiment nous avons ce désir. « Je veux faire ta volonté, ô Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » C'est vraiment mon désir. Et je prie de tout mon cœur pour que ça soit aussi le vôtre à chacun. Alors la sixième porte m'a fait découvrir un soin que je ne connaissais pas. Peut-être que je suis ignare, peut-être que vous connaissez tout ça, c'est la pressothérapie. Vous connaissez tous la pressothérapie. La pressothérapie. Ah bon, ça me rassure. Ça consiste en soins drainants pour les jambes, pour les jambes lourdes et tout ça. Et moi, je me dis que ça m'a parlé de laisser à Dieu le soin de diriger nos pas. Alors, ce soin, c'est une bénédiction pour ceux qui souffrent au niveau des pieds et des jambes. Parfois, on a une considération limitée pour nos pieds. Hein. Mais ce sont eux qui nous portent. Et Dieu en parle avec honneur. Ils sont indispensables pour faire sa volonté. Allez, un petit dessin. Vous voyez, trois étapes. La première, tu arrives avec tes pieds qui ne sont pas dans un état formidable. Pourtant, dans Ésaïe 52,7, Dieu dit « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles et qui publie la paix. » Ça, c'est notre destinée. Donc, nos pieds doivent être beaux. Alors, comment vont les pieds de ta volonté? Sont-ils tous les deux dans le même sabot? Ne fais-tu rien par peur de mal faire ou de te tromper? Ou ont-ils été blessés par les pierres du chemin? Sont-ils immobilisés par des fers ou des bracelets parce que tu es prisonnier? Mais quel que soit le handicap qui s'attache aux pieds de ta volonté, le podologue divin a les ressources nécessaires pour les libérer, les soigner, les panser et leur donner la vie. Sa vie. Si vous regardez les étapes, voyez que dans la troisième étape, eh bien, les pieds vont mieux. Donc, il y a un éventail de solutions proposées par Dieu. Dans Éphésiens 6, verset 15, Dieu nous invite « Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. » Choisis les bonnes chaussures. Certaines formes de chaussures, certaines. Voilà, je suis fille de marchand de chaussures, donc j'en connais un rayon, j'en ai entendu parler. Et donc, c'est important d'avoir des bonnes chaussures pour protéger nos pieds. Psaume 56, 14. Car tu m'as délivré de la mort, tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, et dans la lumière de la vie. Dieu n'a pas préservé nos pieds de la chute pour qu'on fasse n'importe quoi avec, mais afin que nous marchions dans sa volonté. Et le troisième que je vous propose, c'est mon préféré, je vais vous expliquer pourquoi. Psaume 18, 34, « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur des lieux élevés. » J'aime ce verset. Je l'ai chanté, je l'ai proclamé, je l'ai prié, parce qu'il y a une quinzaine d'années de ça, mes pieds étaient dans un tel état que le médecin conseil de la Sécurité sociale a prophétisé, dirons-nous. Il m'a dit, voilà, je vous donne 5 ans, 10 ans tout au plus avant de vous retrouver en fauteuil roulant, parce que mes orteils étaient tous agglutinés comme ça, et je n'avais plus de, comment dire, J'avais plus d'un appui ferme. Donc, on m'avait fait faire des chaussures sur mesure, mais il me dit malgré ça. Et vous savez, j'avais une cinquantaine d'années. Et je me voyais mal, mais je me disais, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire dans un fauteuil roulant? Mais tout ce que je fais, mais comment je vais pouvoir? Et je disais, Seigneur, voilà, tu dis ça, tu dis, mes pieds, tu rends mes pieds semblables à ceux des biches, et tu me places sur les lieux élevés. Et vraiment, Dieu a pris des chemins détournés, mais je bénis Dieu parce que mes orteils sont droits maintenant. Et voilà, j'ai pas les pieds d'une biche svelte, mais d'une vieille biche, ça me fait l'affaire. Hein? Voilà, et je veux vraiment que mes pieds et ceux de ma volonté marchent. C'est gentil, mon cœur, merci. Marchent dans les pas que Dieu a tracés pour moi. Et tout cela, Dieu veut le faire pour toi, pour ta volonté. Il veut briser les menottes qui la retiennent attachée pour qu'elle s'aligne sur la sienne. Il veut placer ta volonté sur les lieux élevés. Mais il ne le fera que si tu acceptes de lâcher prise. Alors parfois, on s'accroche à nos malheurs. Oh, mais j'ai toujours été comme ça. De toute façon, dans ma famille, on est tous comme ça. On essaye de vous aider à sortir de la dépression ou de la victimisation ou de choses qui vous font la guerre comme ça. Et puis, vous vous accrochez à ça. À mon âge, on ne change plus. Mais on s'accroche à nos difficultés souvent parce qu'ils font notre identité. Vous avez des personnes, si elles n'ont pas un sujet de se plaindre, elles n'existent pas. Elles n'existent que dans leur jérémiade. Il faut qu'elles aient mal quelque part, autrement ça ne va pas. Et ton identité, ce n'est pas celle que tu te donnes. Ton identité est cachée en Dieu. Là où tout est paix et vigueur. Donc Dieu veut donner à ta volonté des pieds semblables à ceux des biches. Et il veut que ta volonté rejoigne la sienne sur les lieux élevés. La septième porte, celle-là, elle est rouge. C'est la porte de la salle d'aquagym. Si vous écoutez bien, vous entendez rire à l'intérieur. Vous entendez de la musique. Ça, on a l'air de s'éclater là-dedans. Pour moi, ça représente la communion fraternelle pour muscler ensemble notre foi dans la volonté divine. Alors, l'aquagym, c'est une activité qui est recommandée à tous, quelle que soit notre forme. On n'a pas besoin d'être des athlètes pour en faire, au contraire. Tous les participants font le même mouvement dans l'eau, sous la direction d'un coach. Est-ce que vous savez que nous sommes en train de profiter d'une séance d'aquagym divine, là? Louer Dieu ensemble, partager sa parole ensemble, baigner dans le fleuve de Dieu ensemble, c'est notre aquagym. Nous musclons ensemble tout notre intérieur et dans notre volonté. Ce n'est pas un soin qu'on peut faire une fois. Enfin, si, on peut le faire. On va à une séance d'aquagym comme ça, puis on y revient un an et demi après. Mais si on veut que ça soit efficace, c'est une habitude de vie que nous devons respecter. Tout en nous a besoin des séances où ensemble nous rencontrons Dieu. Certains pensent qu'on peut avoir une relation avec Dieu sans communion fraternelle. Vous savez, quand j'ai subi pas mal d'interventions au niveau de mes pieds pour les récupérer et pour ne pas être en fauteuil roulant, j'ai passé des dimanches et des dimanches à la maison sans pouvoir aller à l'église parce que je ne pouvais pas marcher. Et donc, Alain me laissait le message. Bien sûr, je le lisais, j'essayais d'être en communion avec eux, mais quand j'ai pu revenir à l'église, le fait de louer Dieu, d'être avec mes bien-aimés, le fait d'entendre le message, de le recevoir en même temps que tout le monde, ça a été tellement, tellement formidable. On ne sait pas de quoi on se prive quand on ne vient pas à l'église. Et pour ma part, depuis qu'on est arrivé ici, bon, ça a été un sacré dépaysement. D'une église où on avait vécu 30 ans. Mais maintenant, je me sens tellement bien avec vous que je suis devenue accro. Voilà. Et rares sont les fois où nous faisons l'église buissonnière juste par plaisir. Si nous ne venons pas, c'est que vraiment nous avons un empêchement. Et nous ne devrions pas, en tant que famille de Dieu, nous priver de ces retrouvailles. Notre coach, le Saint-Esprit, a toujours de nouveaux mouvements à nous proposer pour nous apprendre à obéir ensemble à la volonté de Dieu. Alors, quelques versets, psaume 34, 4. « Venez, proclamons avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble. » J'appuie sur ce mot « ensemble » parce que je crois que c'est une clé, « ensemble ». Psaume 133, 1. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et vous savez, ce psaume, c'était un chant qui était chanté par ceux qui se rendaient à la maison de Dieu. Ça devait être génial d'entendre ça sur tous les chemins qui arrivaient de droite et de gauche. Alors, ne vient pas la science d'aquagym divine en maugréant. Voilà, je suis fatiguée, moi. Hier, j'ai bossé, il faut encore aller à l'église. Hein. Ou alors, ne vient pas pour faire bon chrétien. Si je ne vais pas au culte, on va encore dire que je suis un mauvais chrétien. Non, viens ici, viens à la science d'aquagym divine pour te faire du bien. Viens-y plein de joie et d'espérance. Ensemble est un mot-clé dans le projet de Dieu. Ensemble. Alors, le huitième point, la huitième porte, ouvre sur un bureau. Il y a un petit carré vitré et dedans, eh bien, on voit une dame à un bureau. C'est la diététicienne. Ah, qu'on n'aime pas la diététicienne. Diététicienne, ça fait une croix sur le chocolat, une croix sur les glaces, une croix sur le bon fromage, une croix sur tout ce qu'on aime manger. Et pourtant, cette partie du suivi, nous devons l'assumer seule. Les régimes ne sont pas toujours faciles à mettre en place et passer à une alimentation équilibrée quand on a l'habitude de manger n'importe quoi et n'importe comment. Ça demande une certaine discipline. On ressent toujours la crainte de la privation. Ah là là, lui il a des chips, moi j'en ai pas. Ah, lui il a un cornet de glace et moi j'en ai pas. Et lire la parole de Dieu, s'en nourrir, est un passage obligé pour rester en phase avec la volonté divine. Alors on a souvent du mal à trouver le bon moment. Je ne sais pas si vous vivez cela aussi. Alors, au moment où vous ouvrez votre Bible, vos pensées deviennent entreprenantes. Comme disait Denis tout à l'heure, « Ah là là, mon Dieu, est-ce que j'ai débranché le fer à repasser ? Oh là là, j'ai oublié de rappeler le plombier !» Donc, notez sur votre petit papier et restez ferme dans la lecture de la parole de Dieu. Concentrons-nous sur ce que nous lisons. Alors, souvent, c'est des choses légitimes, mais le fait qu'elle se produise à ce moment-là, c'est juste pour détourner notre attention de notre objectif. Pourquoi ? Parce que l'ennemi sait très bien qu'un chrétien qui lit sa Bible devient une anguille pour lui. Vous savez, on est allé voir plusieurs fois, il y a un parc où on élève des cigognes, je crois que c'est à un navire. Et puis il y a un bassin avec on voit des animaux aquatiques. Et je ne sais plus quel animal, quel oiseau c'était, un oiseau aquatique. Et puis ils avaient lâché dans l'eau pour lui des anguilles. Et il devait les attraper, c'était son repas. Alors évidemment, il piquait, il a fini par attraper l'anguille. Et puis là, mais elle a tellement elle s'est tordue ou quoi que elle a réussi à se retourner dans son gosier et elle est ressortie. Et un chrétien qui lit sa Bible, c'est un chrétien anguille entre les mains du diable. Il peut pas nous avaler, il peut pas nous attraper. Parce que Dieu nous donne la dextérité de nous dégager. Nous avons la parole, nous pouvons dire il est écrit parce que nous connaissons la parole de Dieu. Dieu nous nourrit par sa parole et nous ne sommes plus prêts à sauter sur n'importe quelle gourmandise parce que notre esprit est rassasié. Dieu nous parle et nous comprenons mieux ce qu'il attend de nous pour que notre volonté se laisse transformer, reprenne des forces. Et c'est là et là seulement que nous sommes quotidiennement branchés sur la source divine. Alors quand vous rechargez votre téléphone, normalement, vous avez plusieurs heures d'autonomie. Ou alors ça veut dire que votre batterie est vieille et qu'il faut la changer. Alors ou qu'il faut la recharger plusieurs fois dans la journée. N'hésitons pas à venir aussi souvent que nécessaire pour nous nourrir. Et surtout, en diététique, tout le monde le dit, ne sautons pas de repas. C'est très mauvais pour l'organisme. Pas vrai, Manu ? Voilà. Alors le psaume 119 est une mine d'or pour nous aider à comprendre l'importance de la parole de Dieu dans notre quotidien. On ne va pas le lire tout, hein, ça fait un peu long. Mais juste deux versets. Le verset 97. « J'aime beaucoup ta loi et je réfléchis sur elle tous les jours. » Et le verset 105, ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. Je pense qu'on a besoin d'éclairer notre chemin, autrement ça devient dangereux, on peut trébucher. Alors on arrive au bout. Il y a une neuvième porte, là aussi il y a un bureau avec un professeur vêtu d'une tenue sportive et tout ça. Donc, pour opérer des changements durables dans un domaine de notre vie, il vaut mieux être accompagné par un coach. Il nous encourage, il nous aide à progresser, il nous fait revenir sur nos pas si c'est nécessaire. Et notre coach à nous, super plus plus, c'est Dieu, assisté du Saint-Esprit. Lire sa parole, c'est bien, mais le rencontrer pour lui parler, l'écouter, c'est le meilleur choix que nous puissions faire. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Vivre dans la présence de Dieu, le rencontrer tous les jours comme on rencontrerait notre coach, honorer tous les rendez-vous qu'il nous donne, ben, c'est la garantie d'une vie réussie et protégée. Tout n'est pas toujours facile, les défis sont là, mais nous ne sommes pas seuls. Et je me dis toujours que c'est vraiment un privilège d'être la brebis du bon berger. Il me connaît, il te connaît. Alors ne le fuis pas, cherche sa présence. Et si tu t'égares, et que parce que tu as suivi ta volonté, non la sienne, tu te trouves en danger loin du troupeau, que fait le bon berger? Parce que tu es important pour lui, tu es importante pour lui. Eh bien, il va te chercher, il part, il va te ramener sur son épaule, il va te rassurer, il va te soigner, il ne va pas t'enguirlander. Rien ne pourra te séparer de son amour. Et même si tu t'obstines, il attendra devant ta porte pour te retrouver. Hein? On lit cela dans Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, Dieu est patient, il attend. C'est un gentleman. Et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, ne rate aucun rendez-vous avec ton divin coach. Voyez ce que Dieu nous propose. Ce n'est pas réservé à une élite qui a un bac plus 10. Hein. C'est pour toi, c'est pour moi. Et alors, je voudrais maintenant vous poser une question. Veux-tu faire plier ta volonté à celle du Seigneur, comme Job a décidé de le faire? Dans Job 23, 12, on lit, « Je n'ai pas altéré les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » C'est ce que Dieu attend de nous ce matin. Il n'a pas besoin nous n'avons pas besoin d'investir, nous n'avons pas besoin de faire des efforts surhumains. Simplement de faire plier notre volonté à la sienne. Vous savez, même Jésus, pourtant c'était Jésus, il a eu un moment de faiblesse. Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais ça a duré combien? 3-4 secondes. Mais, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Même à Jésus, c'est arrivé. Vous savez, ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est de nous entendre dire « Oui, Seigneur ». Offrons au Seigneur un chèque en blanc. Il n'en abusera pas, il a déjà tout payé. Et je voudrais terminer par une petite anecdote. Après la mort du roi Louis XVI, son fils, destiné à devenir Louis XVII, a été enlevé et élevé par des révolutionnaires grossiers et sans éducation. Et il voulait faire du jeune homme, du jeune dauphin, quelqu'un qui leur ressemble. Et à chaque sollicitation, le jeune Louis répondait « Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le dire, car je suis né pour être roi. » Il réagissait ainsi parce qu'il savait que c'était sa destinée et que son père aurait voulu cela. « Je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux faire ta volonté, papa. » Et chaque fois que tu sens la tentation de te lâcher du mauvais côté arrive, chaque fois que, voilà, répète, je suis fils ou fille de roi, je suis né pour faire la volonté de mon père. C'est pas compliqué. C'est dans la mesure où chacun de nous prendra cette décision que notre communauté grandira en maturité et en efficacité. Et la fusée Josué va se remplir rapidement de conquérants pour propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous rappelez que je vous avais expliqué la dernière fois que cette idée du message sur la volonté, ça avait suivi une image. Je voyais la fusée, l'église Josué comme une fusée, puis on était tous là avec notre casque sous le bras, là, nos scaphandres, et on était là en train de se faire des politesses. Vas-y, je t'en prie, Huguette, je t'en prie, monte, monte, en espérant qu'il n'y aurait plus de place pour nous. Mais si nous alignons notre volonté, et si ensemble, nous faisons cette démarche de permettre à Dieu de restaurer notre volonté, alors on se bousculera et la fusée pourra décoller pour là où Dieu veut l'amener. Je crois que c'est vraiment ce qu'il veut. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons parce que tu n'es pas compliqué. Seigneur, tu ne nous demandes pas des choses que nous ne pouvons pas faire. Seigneur, tu as fait tout le chemin. Nous avons simplement à nous lever à dire oui. Et Seigneur, je veux vraiment confesser ce matin. Seigneur, qu'après avoir réfléchi, médité et pensé à tout cela, Seigneur, je veux dire que pour moi, le temps est, je me sens prête à mettre le pied hors de la barque pour marcher sur les eaux de ta volonté. Seigneur, je te prie vraiment pour que pour chacun, ce travail se fasse aussi, Seigneur. Et qu'ensemble, nous puissions nous lever. Qu'ensemble, nous puissions avancer. Qu'ensemble, nous puissions rentrer dans ce que tu as prévu pour cette communauté, pour cette église Josué. Seigneur, pour cette région de Guebwiller, pour les nations, Seigneur, partout où tu voudras nous utiliser. Seigneur, nous voulons vraiment maintenant nous conformer, te remettons notre volonté. Nous te disons oui, Seigneur, oui. Et ce n'est pas un demi-oui, ce n'est pas